bonjour à toutes et à tous, vous écoutez bien Radio Pays d'Hérault, RPH Sud et Radio Lodève. Et comme vous l'avez remarqué, nous avons traversé un hiver sous la pluie, observé plusieurs crues sur le territoire, ce qui a obligé les communes à avoir une attention particulière dans la gestion des cours d'eau qui nous entourent. Et dans le centre Hérault, la communauté de communes Vallée de l'Hérault bénéficie de la compétence GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, qui œuvre autant à nous protéger des inondations qu'à protéger les milieux aquatiques eux-mêmes, en dialogue direct avec les élus et les propriétaires concernés. Dans cette émission, réalisée en partenariat avec la communauté de communes Vallée de l'Hérault, nous allons présenter les différents objectifs de la GEMAPI, les moyens d'action et son rôle dans la vallée. Alors, quels sont les enjeux pour l'aménagement du territoire? Quelles sont les obligations à respecter pour les riverains, comme comment lutter contre les plantes invasives et protéger les zones humides? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Nous recevons aujourd'hui Lucie Kerjean, responsable GEMAPI pour la communauté de communes Vallée de l'Hérault. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Nous avons également autour de la table Jean-Claude de Crosse, vice-président SCOT et GEMAPI et maire de la Boissière. Bonjour.
Oui, bonjour.
Pour animer cette émission, j'ai le plaisir de partager l'animation avec Damien Saintès, journaliste à Radio Dev. Bonjour Damien.
Bonjour Maïva.
Alors, pour commencer, pouvez-vous rappeler à nos auditrices et nos auditeurs quels sont les grands axes de cette fameuse compétence GEMAPI et en quoi elle concerne les habitants de la vallée de l'Hérault?
Alors, la compétence GEMAPI a été prise en janvier 2018 par la communauté de communes Vallée de l'Hérault, ce qui permet d'intervenir sur les 28 communes sur la thématique de gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Donc le contenu de cette compétence relève notamment l'inventaire des zones humides, la définition des espaces de bon fonctionnement des cours d'eau, mais aussi définir une stratégie d'intervention sur les espèces exotiques envahissantes, notamment la propagation de la renouée du Japon, une espèce qui est connue. Mais il s'agit également de mener des travaux d'entretien des cours d'eau, donc dans le cadre d'actions d'intérêt général. Et en termes de prévention des inondations, il n'y a pas d'ouvrage de protection spécifique sur le territoire. Et enfin, il s'agit de mener des actions de préservation des sites sensibles comme les zones humides et les berges. Voilà un petit peu un tour un peu général des actions de la compétence GEMAPI. Lors du mandat précédent, nous avons établi une stratégie et une feuille de route avec notamment des élus référents dans chacune des 28 communes qui se sont fortement impliqués à travers des ateliers de réflexion et de propositions de manière à définir les grands axes des réalisations à prévoir sur la durée du mandat, mais également d'élaborer une stratégie de communication qui a été déclinée par les services, à la fois Lucie Kerjean et Arnaud Bourg, qui ont mené cette stratégie de communication, mais aussi qui ont suivi toutes les actions d'entretien et toutes les études qui ont pu être menées.
Alors, juste pour faire un petit point, quand on parle de l'eau sur notre territoire, concrètement, on parle de quel cours d'eau de...
Donc, le territoire de la vallée de l'Hérault est à cheval sur deux bassins versants. Le bassin versant du fleuve Hérault, qui concerne la majorité des communes, mais également le bassin versant de la Mosson, sur l'est de la communauté de communes, du territoire. Le fleuve Hérault traverse principalement le territoire sur une longueur de 51 km, c'est-à-dire à peu près un tiers de sa longueur. Et ensuite, nous avons plus de 800 km de cours d'eau, dont une petite partie de permanent et la majorité de cours d'eau intermittents, ce qui est une spécificité du territoire méditerranéen.
Oui, et parce que l'idée, c'est de protéger alors des inondations, hein, comme son nom l'indique. GEMAPI, c'est quoi le plus grand risque finalement sur le territoire? C'est les épisodes méditerranéens, c'est Venol, c'est l'inondation par ruissellement dans des cours d'eau qui sont les trois quarts du temps à sec. C'est quoi le plus grand risque sur lequel vous travaillez tout au long de l'année finalement?
Quand on va parler de risque inondation, en fin de compte, on va distinguer la cause de l'inondation. On peut parler de ruissellement. Donc ça va être surtout en milieu urbain, mais ça peut arriver aussi en milieu agricole, naturel. On va parler aussi de débordement de cours d'eau. Ça va plus concerner le fleuve Hérault, qui va avoir des grandes crues qui vont durer un peu plus longtemps. Et on a aussi des crues torrentielles qu'on a connues en 2014, notamment sur le Rouviège, le Dardaillon, le Lussac aussi à Pouzolles. Qui là sont des crues sur des petits affluents qui prennent beaucoup d'eau d'un coup et qui débordent avec un fort débit. Voilà. Donc on va travailler sur l'ensemble de ces sujets-là. Au titre de la compétence GEMAPI, on est plus attendu sur le débordement de cours d'eau, donc ça va plutôt concerner le débordement du fleuve Hérault ou les crues torrentielles. Et concrètement, on va travailler plus sur les affluents parce qu'on va là, on va pouvoir mener des actions qui vont faciliter le passage des eaux, limiter le risque d'embâcle et donc voilà, faciliter le passage de la crue. Et à ce titre-là, on améliore la connaissance, c'est-à-dire qu'on va aller voir un bassin versant. Par exemple, on l'a fait sur Pouzolles pour le Lussac. Comme on savait qu'on avait eu de forts désordres en 2014, on avait besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment ça déborde et comment on pourrait améliorer le phénomène. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une départementale qui traverse le village, la 123. Il y a eu une accumulation de bois au niveau du pont, ce qui a fait augmenter le niveau d'eau et le débordement sur la route, quoi. Donc le retour aussi en post-crise a été un peu plus long. Il a fallu désembâcler le pont, etc. Donc nous, on a été comprendre comment ça déborde, avec quelle pluviométrie, etc. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter cette situation-là. Donc on est en train de travailler maintenant la phase de travaux, c'est-à-dire qu'on fait les études préalables pour bien préciser les travaux qu'on va faire, pour envisager d'intervenir pour laisser passer les embâcles plus facilement sous ce pont-là. Voilà le type d'intervention qu'on peut faire.
Oui, du coup c'est du travail permanent parce que j'imagine que la nature reprend sans cesse ses droits. Enfin, les cours d'eau sont à chaque fois envahis par les arbres, les ronces. Enfin, donc c'est du travail perpétuel. C'est pas un instant donné. C'est permanent.
Alors là, je vous parlais d'un cas particulier d'amélioration du fonctionnement d'une crue, d'un cours d'eau en particulier. Mais c'est vrai que sinon, on intervient pour l'entretien des cours d'eau. Alors, pour rappel, même s'il y a la compétence GEMAPI, c'est les propriétaires riverains qui sont les premiers responsables de l'entretien des cours d'eau. Donc, c'est-à-dire, en gros, ils sont propriétaires du lit du cours d'eau jusqu'à la moitié du cours d'eau. Donc voilà, premier responsable. Ceci dit, la compétence GEMAPI, elle a vocation aussi à pallier à l'absence d'entretien et aussi à identifier des tronçons. On a vraiment un fort enjeu d'entretien. On va parler d'intérêt général parce qu'on aurait un fort risque d'embâcle et d'inondation, par exemple dans des zones urbaines ou au niveau de ponts, de routes qui sont très fréquentées. Donc là, on va parler de tronçons d'intérêt général. Ça veut dire le fait de faire l'entretien par la personne publique qui est la communauté de communes, c'est considéré comme légal dans un sens de dépenser cet argent public sur du fonds privé à la place des propriétaires privés, parce qu'il y a un enjeu d'intérêt général. Donc quand on fait ça, nous on ne va pas ratiboiser non plus toute la berge, parce qu'on fait aussi de la gestion des milieux aquatiques. Et on sait que les ripisylves, elles permettent, par les racines des arbres, etc., de maintenir les berges. Ça participe au bon fonctionnement du cours d'eau et aussi au fait que le risque d'inondation soit géré d'une certaine façon aussi. Et puis, on a aussi des enjeux biodiversité dans ces ripisylves. On peut avoir des chauves-souris qui vont nicher dans les écorces décollées des arbres. On pourrait avoir des arbres morts qui vont accueillir des insectes, etc. Donc, notre idée, c'est de trouver l'idée. Enfin, notre objectif et ce qui est attendu de nous, c'est de trouver l'équilibre entre le risque d'inondation et ces enjeux de biodiversité, de préserver les milieux.
Alors, on parle des inondations avec les cours d'eau, éviter qu'il y ait des embâcles. Dans le même temps, on va y revenir, mais il y a les zones humides. Là, j'imagine que l'autre risque, c'est justement l'inverse. C'est peut-être quand il fait de plus en plus chaud, la zone humide, c'est une réserve de biodiversité. Quel est l'enjeu dans une zone humide pour vous, finalement? C'est plus autour de la biodiversité ou plus autour du risque d'inondation? Ou c'est les deux?
Alors, il faut savoir que les zones humides, c'est des territoires vraiment particuliers. Pour le coup, ils sont protégés par le code de l'environnement. On ne peut pas y faire n'importe quoi.
Parce que quand on parle de zones humides, déjà, est-ce qu'on peut un peu situer vos zones humides en vallée de l'Hérault? On parle de quoi? On parle d'où?
Alors, on parle de 2,5% de notre territoire, donc c'est pas beaucoup. C'est essentiellement les ripisylves des cours d'eau. en majorité. Et puis après, on a deux zones humides plus étendues qui vont avoir des faciès un peu différents, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être des ripisylves forcément. Il peut y en avoir, mais pas que. On va avoir des prairies humides ou des mares temporaires, des choses comme ça. Et donc, on a deux espaces particulièrement étendus, l'un sur la Boissière et l'autre sur Gignac et Pouzol. Et les zones humides, elles nous intéressent effectivement pour la biodiversité, puisqu'on a des espèces qui sont totalement inféodées aux zones humides, qui ne peuvent pas vivre sans ces zones-là. Et en même temps, elles rendent pas mal de services à la population aussi, hein, au-delà de la biodiversité, parce qu'elles fonctionnent un peu comme des éponges. C'est-à-dire que quand on a un gros événement de pluviométrie, elles sont en capacité de retenir cette eau, en fait, de l'absorber. Donc ça permet de limiter le ruissellement et de limiter aussi le débordement de cours d'eau, enfin en tout cas de l'accueillir, d'accompagner l'arrivée de cette eau, donc limiter les inondations sur des enjeux humains potentiellement en aval de ces zones-là. Et ensuite, elles sont en capacité de renvoyer cette eau dans le milieu naturel, ensuite en période d'étiage. Donc elles participent vraiment, c'est une manière de stocker l'eau dans les sols, en fin de compte, les zones humides.
Et sur ces zones-là, on a lancé des travaux dans l'idée de définir des plans de gestion à la fois sur la zone humide des gravières de Gignac-Pouzol avec l'ensemble des propriétaires et des partenaires pour bien appréhender quels sont les enjeux, même si Lucie en abordait une partie, mais pour bien affiner quels sont les enjeux, de manière à définir des actions qui permettent de préserver donc l'intérêt de cette zone-là, de manière à la préserver dans le temps. Il en est de même sur la commune de la Boissière, où nous avons établi ce premier diagnostic de terrain pour définir un plan de gestion avec, encore une fois, avec les différents acteurs du territoire, avec les élus, les représentants associatifs, de manière donc à co-construire aussi bien sur Gignac-Pouzol que sur la Boissière, de manière à co-construire donc des actions à mettre en place pour préserver ces espaces qui ont un intérêt majeur. Je crois même que sur l'étude sur le secteur de Gignac-Pouzol, il est prévu d'associer les élèves du lycée, des lycées à la fois
agricole et Simone Veil.
Oui, voilà, exactement. Donc ça leur permettra de s'impliquer dans une démarche.
Ils sont tous les deux, en plus, situés
dans le secteur, ouais, sur place.
Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, Jean-Claude Cross, sur le projet mené sur la plaine de la Boissière? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des détails?
On ne l'a pas dit, vous êtes le maire en plus de la Boissière. Donc,
je suis le maire de la Boissière. Oui.
Racontez-nous tout.
La Boissière, donc cette zone humide, c'est vrai que c'est une des caractéristiques de la commune. On a un climat qui est un petit peu moins méditerranéen, un petit peu moins strictement méditerranéen qu'on peut retrouver sur certains secteurs de la vallée de l'Hérault. On se rapproche plus d'une ambiance un peu cévenole, avec une végétation qui y est un peu inféodée. Et puis on a toute une des poches d'eau superficielle, donc dans la partie agricole, donc avec une végétation et quelques espèces aquatiques donc qui sont inféodées. Ces espaces-là étaient soit cultivés par le passé ou pâturés par des troupeaux ovins. Et de par la fermeture du milieu, aujourd'hui, ils représentent une certaine sensibilité, ils sont remis en question. Et le résultat de l'étude propose des axes, justement, de pouvoir redéployer du pâturage ovin pour retrouver des équilibres et préserver cet espace, quoi.
Justement, les plans de gestion, enfin, comment vous les définissez? Parce que j'imagine qu'il y a énormément de choses à faire. Ce territoire de la vallée de l'Hérault est très vaste. Il y a les zones humides, il y a éviter les embâcles. Enfin, comment vous arrivez à prioriser finalement votre plan de gestion? Comment vous l'écrivez? Comment ça se passe finalement?
Alors, on ne va pas parler de plan de gestion par rapport à ce que vous faites référence. Je vais vous parler plutôt de la feuille de route GEMAPI. Oui. Et après, elle va se décliner en plan de gestion thématique, si on veut.
Okay.
On va avoir des plans
elle a plusieurs chapitres.
Oui, on va avoir des plans de gestion sur les cours d'eau. On en a un sur le fleuve Hérault qui est partagé avec les autres communautés de communes.
Parce que vous partagez, vous êtes pour schématiser, rive gauche et rive droite, c'est le Clermontais, fleuve Hérault pour la partie sud en tout cas.
Bah, on a la rive droite de Saint-Jean-de-Fosse jusqu'à Saint-André-Tournemisce.
Oui, mais pour faire simple, enfin, ce que je voulais dire, c'est que vous devez travailler aussi avec les territoires voisins.
Complètement. Et d'ailleurs, pour ce plan de gestion-là, c'est l'entité à l'échelle du bassin versant, donc qu'on appelle EPTB.
Bassin fleuve Hérault.
Voilà. Qui a élaboré ce plan de gestion pour nous, histoire de chercher de la cohérence. Donc après, dans ce plan de gestion, c'est ce qu'on fait à échéance régulière. Donc on en a 4 des plans de gestion de cours d'eau, donc pour l'Hérault, pour la Lergue, en lien avec le Clermontais, pour nos affluents de l'Hérault, et pour la Mausson et ses affluents, donc sur la partie du bassin versant Mausson. En fait, ça concerne surtout la commune de Montarnau et puis un petit peu Saint-Paul et Valmal. On a aussi Argelier et La Boissière qui sont en partie sur le bassin versant Mausson et en partie sur le bassin versant Hérault. Et ensuite, la démarche sur les zones humides, effectivement, donne lieu à des plans de gestion. Là, c'est un petit peu différent. Comme le disait Jean-Claude, c'est vrai qu'on est dans des situations... Déjà, on n'a pas la maîtrise foncière, donc nous, on essaye d'animer le territoire, d'emmener le territoire avec nous pour aller mettre en place des actions qui vont permettre de préserver ces zones humides et les services qu'elles nous rendent, surtout. Et c'est pour ça qu'on met en œuvre toute cette concertation avec les acteurs locaux, etc., pour qu'ils voient aussi l'intérêt de participer à cette démarche-là. Donc, on a ce premier plan de gestion-là. Donc là, on va être sur des actions... diverses et variées, en fin de compte. C'est pas comme sur les plans de gestion de cours d'eau, on va dire bah, à telle échéance, on intervient là, 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 là. Là, on va avoir différents types d'actions, du suivi, aussi de la communication, etc.
De la prévention.
Sur les zones humides.
Oui, enfin, en termes de communication, mais voilà, aller sensibiliser. Oui. Quand je dis parle de prévention, c'est de la sensibilisation auprès notamment du jeune public. Enfin, c'est des choses que vous faites, qui font partie de votre champ de compétences aussi.
Oui. Et quand vous parlez de prévention, ça me fait penser à la manière aussi, si on veut préserver les milieux, comment on prévient le fait qu'il n'y ait pas des usages sur ces milieux qui soient contradictoires avec notre objectif de les préserver. Et on travaille aussi à l'intégration de notre connaissance des enjeux GEMAPI sur notre territoire dans les documents d'urbanisme. Donc tout ce qui est risque inondation, puisqu'avec nos études hydrauliques, on a une connaissance quand même très fine du risque inondation sur certaines communes, aussi des zones humides, etc., les espaces de bon fonctionnement des cours d'eau, etc. Et ça, on le communique aux élus quand ils travaillent sur leurs plans locaux d'urbanisme pour les aiguiller aussi sur quelle est la meilleure façon d'intégrer ces enjeux dans les documents d'urbanisme.
Je voulais revenir tout à l'heure, parce que vous parliez de gestion foncière, du coup, revenir sur les riverains et les obligations qu'ils ont justement face à la GEMAPI et des risques dont vous parlez. Qu'est-ce qui, du coup, en tant que propriétaire, que riverain, qu'est-ce qu'on est obligé de faire ?
Alors voilà, là c'est toujours le sujet un peu à prendre avec des pincettes, je trouve, puisqu'en fin de compte, effectivement, le riverain, il est obligé, enfin attendu, responsable d'entretenir sa
berge. Il a des droits et des devoirs.
Ouais, il doit entretenir sa berge pour permettre l'écoulement des eaux et limiter le risque d'embâcle en aval. Et en même temps, on a dit tout à l'heure qu'on avait une biodiversité intéressante dans les cours d'eau. Donc si l'intervention, elle se fait, elle est trop drastique, on va aussi à l'encontre d'un autre enjeu qui est le maintien de la ripisylve. Donc c'est un équilibre parfois difficile à trouver. Donc pour ça, on propose aux riverains de nous contacter quand ils ont un doute sur l'intervention à faire. Mais généralement, c'est enlever par exemple un arbre mort au travers du cours d'eau. Bon voilà, on peut comprendre qu'il faut le retirer s'il risque d'être emporté. S'il est tellement grand qu'il risque pas d'être emporté, il peut être laissé. Enfin voilà, c'est un peu à juger sur le terrain. C'est pour ça que c'est difficile de donner des directions bien claires là-dessus. Ceci dit, on a créé un guide qui est disponible sur le site internet de la communauté de communes, qui est téléchargeable à destination des riverains, pour les aiguiller dans l'analyse de ce qu'ils voient sur leur berge et qu'est-ce qui est nécessaire comme intervention ou pas. Et comme je le disais, c'est possible de nous contacter pour avoir notre avis là-dessus, notre aiguillage. Donc on laissera, si c'est possible, l'adresse mail et le numéro de téléphone pour que les auditeurs puissent en profiter.
Oui, parce que quel est le rapport finalement avec la population ? On connaît ce département héraultais, c'est une terre d'accueil. Chaque année, plusieurs milliers de personnes s'installent. Des gens qui ne sont peut-être pas forcément originaires de ce territoire. Paradoxalement, ces derniers mois, non, mais on est sur un territoire où il y a très peu de pluie, généralement. On se dit, tiens, il n'y a pas de risque. Et puis, par contre, quand il pleut vraiment, les risques sont là. Est-ce que vous êtes face à une population qui ne connaît connaît pas forcément peut-être justement ces risques des inondations, qui n'est pas au courant. Enfin, c'est un manque de connaissance de sa part. C'est quoi le rapport avec cette population? Parce qu'on a aussi souvent tendance à dire qu'on oublie des fois. Ben voilà, on a connu des inondations il y a 30-40 ans, mais on a oublié depuis la dangerosité du cours d'eau. Quel est ce rapport avec la population, Jean-Claude Cros?
Oui, c'est vrai que c'est important de veiller à communiquer sur la mémoire des crues. Alors malheureusement, il y a eu sans dégâts humains, mais tout récemment, il y avait eu dans les années 2010 des épisodes assez conséquents sur le sud du territoire. Mais pas très loin d'ici, à la mairie de Saint-André, si vous allez en salle de conseil municipal, il y a une plaque avec qui rappelle une inondation de 1907, je crois. Et d'autres communes, je crois à Saint-Guyen-le-Désert aussi, il y avait une crue assez importante. Donc dans certaines communes, ils ont encore la mémoire, mais la collectivité a encore la mémoire de ces épisodes-là. Mais c'est vrai que les populations ne l'ont pas forcément. Parfois, on peut retrouver sur certaines communes des repères de crue qui permettent justement que chacun puisse se rendre compte du niveau, que le niveau d'eau peut atteindre lors de certaines intempéries. Mais il y a peut-être des choses à faire là-dessus et continuer à sensibiliser les populations aux risques qui peuvent être encourus lorsque un épisode se stationne, notamment sur le territoire.
Et justement, c'est votre rôle de les éduquer à ce risque, ou ça sera plutôt une strate au-dessus, le PTB fleuve Hérault, ça fait partie de vos actions menées ou pas
C'est un rôle qui est partagé. En fin de compte, c'est vrai qu'au titre de la GEMAPI, on peut intervenir là-dessus, puis c'est tout à fait légitime de transmettre l'information qu'on a et d'alerter nos populations. On a aussi les mairies qui sont responsables de l'information à leurs administrés sur les risques sur leur territoire. Et l'État va travailler, lui, à caractériser le risque, donc à faire des espèces de zonage, des zones inondables, etc. Un peu ce qu'on fait, mais à une autre échelle, en fin de compte. Et ça, c'est des documents opposables, par contre. Donc on est plusieurs à intervenir là-dessus, les EPTB aussi, donc au niveau des bassins versants, voilà, qui vont aller sensibiliser la population là-dessus. Hein. Et c'est vrai que quand on a travaillé avec les élus référents sur le plan de communication de la GEMAPI, les élus, ils nous ont fait remonter des propositions assez intéressantes là-dessus. C'était d'aller faire vraiment des communications spécifiques dans les communes sur l'enjeu en question dans la commune, quoi. Pas parler de manière générale des inondations, mais d'aller très spécifiquement sur la connaissance qu'on a pour que ça permette de bien se représenter. Et on avait fait un exercice intéressant, c'était fin 2024 peut-être, ou fin 2023, je ne sais plus, à Pouzol, à l'occasion de la journée de la résilience face aux risques. Et on avait un comédien qui était venu, qui avait une petite alcôve dans la salle, on était le public, etc. Et puis il prenait quelqu'un du public de sa petite alcôve, on éteignait les lumières et puis il nous mettait dans une ambiance où il racontait une histoire aux participants, une histoire où la personne se retrouve embarquée dans une inondation, enfin il est en voiture, est-ce qu'il traverse le gué ou pas, etc. On lui pose des questions au fur et à mesure, une vraie mise en situation de situation de crise. Et c'était vraiment très instructif et très intéressant de le proposer par l'expérience, par le vécu comme ça.
Pour revenir à cette gestion des cours d'eau, il y a des périodes préférentielles pour intervenir. Vous travaillez sur des cours d'eau, c'est un milieu très vivant, entre la faune et la flore. J'imagine qu'il y a il y a une périodicité, il y a un temps donné pour travailler. C'est quand, finalement?
Eh bien, effectivement, très bonne question. On intervient de début septembre, en gros, à fin février, parce qu'ensuite, on a, là, au niveau de la biodiversité, on a énormément de cycles naturels qui se produisent dans cette période de printemps-été. Donc on laisse tranquille la faune et la flore dans les cours d'eau.
Mais même entre septembre et le mois de février, en fonction des sites et des enjeux qui sont connus ou pas, donc il y a un technicien de la communauté de communes, un technicien biodiversité, Jason Crébassa, notamment, qui se rend sur site pour appréhender si effectivement il y aurait un espace, un petit bosquet, un arbre qui représente un intérêt pour une espèce protégée. Donc tout au long de l'année, il y a cette prise en compte biodiversité.
Alors on arrive bientôt à la fin de cette émission. Un peu en guise de conclusion, je voulais savoir si ce que vous avez constaté ces dernières années se produit et un peu quel message est-ce que vous avez envie de donner pour les années suivantes en termes de gestion de l'eau sur notre territoire.
Bah, alors déjà, depuis 2018, on n'a pas eu de situation comme en 2014 avec 300 mm d'eau en 3 heures à Plessant, l'exemple. Oui. Hein. Donc bon, voilà, il faut relativiser le retour que je peux faire là-dessus. Par contre, des retours qu'on a pu avoir de la commune de Montarnot par rapport à l'entretien qu'on fait régulièrement, et on a énormément de cours d'eau qui traversent Montarnot dans une zone urbanisée, donc avec des débordements qui pouvaient être un peu fréquents, et l'entretien régulier, par exemple, a permis qu'il y ait moins de débordements, ou en tout cas que ça revienne plus rapidement à la normale. Donc ça, c'est des choses qu'on peut constater. Et en même temps, il faut savoir que s'il y a une grosse crue, et vraiment un événement très fort, on peut avoir fait l'entretien avant, mais on peut avoir des arbres sains qui partent, et quel que soit l'entretien avant, faut garder en tête qu'on est sur des phénomènes naturels.
Si c'est un épisode stationnaire, effectivement, tout l'entretien qui aura pu être fait auparavant ne répondra pas forcément, ne permettra pas un écoulement nécessaire, et ça engendrera peut-être des dégâts et des complications. Vous parliez de Montarnot et Lucie tout à l'heure, mais il y a également à Bellarga, où on a eu un retour comme quoi les travaux réalisés sur les affluents de l'Hérault ont permis que les épisodes de l'automne et de l'hiver dernier ne posent pas de réelles difficultés. C'est vrai que c'est important d'avoir ces retours de terrain de la part des gens qui connaissent bien leur commune. Hein. Ils nous font remonter les éléments en amont, après les épisodes, à l'équipe donc GEMAPI, de manière à affiner le plan d'intervention. Et si vous en avez l'occasion, dès lors que la communauté de communes ou le service GEMAPI proposera des actions, des animations, nous ne manquerons pas de vous en faire part de manière à le diffuser, pour que la population et les habitants du territoire peuvent participer aux animations que l'on proposera.
Et justement, c'est peut-être le moment de rappeler les contacts pour les propriétaires en bord de rivière, tous ceux qui sont... le service GEMAPI, quel est le contact à prioriser
J'ai une adresse mail et un numéro de téléphone. Vous voulez que je vous les donne là ou vous les diffusez sur votre site internet plutôt?
Bon, on va faire les deux.
Ok. Donc, par mail, vous pouvez contacter gemapi@cc-du6-vallée-héro.fr ou le 04 67 67 16 79.
Très bien. Merci beaucoup à tous. Je rappelle, Lucie Kergent, que vous êtes responsable GEMAPI pour la communauté de communes Vallée de l'Hérault, et Jean-Claude Cross, donc vice-président SCOT et GEMAPI, et donc maire de La Boissière. Merci à vous deux.
Merci pour votre accueil.
Merci.
Merci Damien de Radio Dev.
Merci Maëva.
Et puis à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.